Canu présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La nuit. Production. Mise en scène. Julien Jean-Pierre. Enregistrement. CVRP. Il est 8h du matin, la Rolls de M. Lecomte de la Pierre de la Tour du Pin suivait l'allée qui menait au château, un château du XVIe siècle. M. et Mme de la Pierre de la Tour du Pin avaient passé la soirée chez des amis. Ils rentraient fatigués d'une nuit sans sommeil. Leur fils, Franck, ne les avait pas accompagnés. et était resté au château pour étudier. Madame de la Tour du Pin fut surprise de ne pas trouver son fils. Il n'était ni dans sa chambre, ni au salon. Où était-il ? Abandonnée du château, recouvert d'une couverture, un jeune homme plutôt grand, mince, blond. Il avait le regard fixe, son visage était en sueur et tout son corps tremblait. On aurait dit qu'il avait de la fièvre, ou plutôt qu'il avait peur. La pièce où il était petite et sale. Frappa à la porte, de grands coups brutaux. À chaque coup, le jeune homme sursautait. Ses lèvres semblaient vouloir dire « Non, non !» L'on frappait, frappait, frappait. Le jeune homme sursautait à chaque fois. Il était effrayé. Puis, une voix se fit entendre.
« Ouvrez ! Je ne veux pas de déserteurs dans ma section. Ouvrez ! C'est la guerre ! On doit se battre !»
On se remit à frapper. Une autre voix se fit entendre. Une voix terrible.
« Ouvrez ! Je suis l'être suprême. Ouvrez. Ouvre. Tu dois faire comme tout le monde. Vivre pour souffrir et mourir. »
On frappait. Une autre voix se fit entendre.
Ouvrez. Au nom de la loi, ouvrez. Vous avez oublié de porter vos papiers. E.S.Y. 1836 à la mairie, et vous êtes en infraction.
On frappait, frappait, frappait. On l'assaillait, plusieurs voix criaient.
Ouvrez, 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 ouvrez.
Le jeune homme criait
« Non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. »
Avait décidé de passer la soirée à étudier. Ses parents étaient partis. Il se trouvait seul au château. Il s'était mis au salon. Le temps avait été lourd, très lourd. Toute la journée, un orage avait menacé. Ce temps était tellement fatigant et avait tellement fatigué Franck qu'après une heure de lecture, il s'était assoupi. Mais au bout d'un moment, il fut réveillé par une voix qui venait du jardin. Il avait laissé la fenêtre ouverte. « Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? S'il vous plaît, il y a quelqu'un ?» Franck se réveilla et se leva pour aller à la fenêtre. Il vit dans le parc une jeune fille tout de blanc vêtue. Il se demanda comment elle avait pu faire pour traverser le parc, vu que le portail était toujours fermé. « Vous désirez, mademoiselle ? Ma voiture est en panne. L'orage menace. Pouvez-vous m'offrir l'hospitalité pour cette nuit ?» La porte s'ouvrit. Elle rentra. Elle était grande, blonde, mince et semblait avoir 20 ans. Il lui dit « Je suis seule, je ne sais. » Elle ne dit rien et entra au salon. Franck était ébloui par sa beauté. Il n'avait jamais vu une jeune fille aussi belle. Il la fit asseoir dans un fauteuil qui se trouva en face de la cheminée. Et s'assit sur l'autre. Elle lui dit « Je m'appelle Aurore. Surtout ne croyez pas que j'ai peur de l'orage. Bien au contraire, j'adore l'orage, mais je n'aime pas me mouiller. » Franck était comme fasciné par la beauté de la jeune fille. Il se contentait de la regarder. Il ne cherchait pas à comprendre ce qu'elle lui disait. Mais jusqu'à une certaine phrase. « Me trouvez-vous belle ? Oui, bien sûr, je le sais. Vous voudriez vivre avec moi ? Hein ? Vous aimeriez vivre avec moi ? » ?»« Oui, dit-il, sans savoir ce qu'il disait. Toujours, pour toute la vie ? Je suis assez belle pour cela ? Oui, vous êtes assez belle pour cela. Vous êtes très belle. Vous êtes l'éternelle beauté. Oui, je veux vivre avec vous. » Et vous aimez toujours. Comment avez-vous fait pour m'aimer si vite ? Je n'en sais rien. C'est la première fois que j'aime. Il était de plus en plus troublé. Bien, commençons dès maintenant à vivre ensemble. Votre chambre se trouve là, n'est-ce pas ? Franck est tout excité. Il a chaud. Il se demande ce qui va se passer. Oui ? Venez, allons nous coucher. Il se fait tard. Et elle se lève. Franck la suit. Il ne comprenait rien à tout ceci. Il ne voulait rien comprendre. Dans la chambre, elle était déjà au lit, nue, sous les draps, comme par enchantement. Elle lui dit « Viens !» Il vint vers elle et s'allongea à ses côtés sans se déshabiller. Elle lui dit « Tu m'aimes ?»« Oui ?» Nous aimerons toujours, oui, éternellement, mon amour, même dans 20 ans, même dans 50 ans. Il était si ému qu'il n'osait pas la toucher. Oui, éternellement. Comment trouves-tu ma peau ? Douce et belle. Il toucha du bout des doigts son visage. Tu l'aimeras toujours ? Oui. Et mes cheveux aussi. Et mes seins. Il se montra jusqu'à la taille. Il avait chaud et la gorge serrée. Et mes seins aussi. Alors, viens. Il se met nu par-dessus la couverture et tendit les bras. âge. Elle non. Elle dit tout lui apprendre. Ce fut merveilleux. Deux heures plus tard, la chambre était dans la pénombre. Franck, nu, dormait profondément, la tête sur la poitrine de sa bien-aimée. N'avait pas été fermée. Les premiers rayons du jour traversaient les rideaux. Franck dormait profondément. Il fut réveillé par une odeur désagréable. Il ouvrit les yeux. Le jour lui fit mal aux yeux. Il se sentait des raideurs un peu partout. Il avait envie de tousser et de cracher. Il se retourna et... Horreur! Il y avait à côté de lui une vieille femme. Elle était nue, les draps cachaient juste le bas de la taille. L'on voyait un corps maigre. Il ne restait plus qu'une fille peau marron sur les os. Elle dormait la bouche ouverte. C'était de cette bouche que provenait la désagréable odeur. Il s'aperçut aussi qu'elle était presque chauve. Les rares cheveux qui lui restaient étaient d'un blanc filasse. Franck, en quelques secondes, découvrit tout ceci. Cela le dégoûtait et se demandait pourquoi elle était dans son lit. Comment y était-elle venue? Il la secoua pour la réveiller. Elle se réveilla en grognant.
Mais quelle heure est-il?
Elle regarda le réveil.
Comment? Il n'est que 8 heures. Pourquoi me réveiller à cette heure-ci?
Franck était stupéfait. Comment cette étrangère osait-elle lui parler?
Mais... Qui êtes-vous d'abord? Que faites-vous ici? De quel droit êtes-vous dans mon lit?
Comment? De quel droit? Je suis dans mon lit moi aussi. Dans notre lit? Oui, dans notre lit.
Je suis ici chez moi. Vous êtes dans mon lit. Et qui êtes-vous d'abord?
Comment? Tu ne me reconnais pas? Je suis ta femme, voyons.
Franck était ahuri. Il ne comprenait pas.
Ma femme? C'est impossible, impossible. Vous pouviez être ma grand-mère, ou même la mère de ma mère de ma mère. Vous êtes folle, allez-vous-en.
Comment oses-tu me parler de sur ce ton? Je suis ta femme, celle que tu as aimée et promis un amour éternel.
Non, ce n'est pas possible. Je n'ai pas pu aimer cette peau, ce corps, ce visage.
Tiens, regarde.
Elle lui montre une photo. C'était le portrait de la jeune fille d'hier au soir.
Que veux-tu dire aux femmes? Ce que tu vois en photo, c'est moi, c'est la même personne. Me disais-tu hier au soir que tu m'aimerais éternellement? Que tu aimerais ma peau? Qu'elle était la plus douce, la plus belle? Alors tu vois, cette peau si douce, si belle, a changé, mais c'est exactement la même.
Non, assez, ce n'est pas vous. Vous ne tenez pas possible.
Elle se penche vers lui et lui tend ses lèvres.
Allons, embrasse-moi.
Il se recule.
Non, ne me touchez pas. Allez-vous-en.
Je ne peux pas, nous sommes mariés.
Hein? Divorçons.
Pourquoi faire? Tu crois pouvoir refaire ta vie?
Oui, je le ferai. Oui, je pourrai refaire ma vie, je me sauverai.
Je te ferai rechercher.
J'aurai crainte cause. Je suis jeune et toi vieille.
Elle rit et sort de la table de nuit un miroir.
Regarde-toi.
Elle lui tend le miroir.
Non, ce n'est pas moi, c'est impossible. Mes cheveux, mon visage sont ceux d'un vieillard.
Les roses fanent, mais les chevaliers qui les courtisent aussi. Allons, embrasse-moi. Moi, la plus belle, moi, la plus douce, embrasse-moi.
Il la repousse et sort du lit. Elle sort aussi du lit nu et s'approche de lui.
Non, je ne veux pas. Je ne veux pas.
Il recula. Se trouva le dos à la porte. Elle s'avança. Porte s'ouvrit. Et se referma derrière lui. Sortant de la pièce, il avait retrouvé sa jeunesse. Il entendit derrière lui « Je suis ta femme,
je suis ta femme, je suis ta femme !»
Il regarda autour de lui, mais ce n'était plus le couloir qui se trouvait derrière la porte. Mais une rue qui était pleine d'une foule immense, d'hommes, de femmes, de tout âge, de toutes conditions. Il fut pris, poussé par la foule. Une foule qui criait, hurlait, ne comprenait pas ce qu'hurlaient les gens. Il aurait aimé se dégager, mais il ne pouvait pas. Demanda à un homme, à un de ses voisins, qui était un petit homme chauve et tout maigre.
Où allons-nous?
Comment? Où nous allons? Nous allons à la guerre! Nous allons nous battre! Nous allons tuer et être tués! C'est la fête! La grande fête!
Tout à coup, la musique militaire retentit. Regarda autour de lui. Il était entouré d'hommes habillés en tenue militaire, armes sur l'épaule, casque et sac au dos. Il marchait tous au pas. Il se regarda, mais surpris. Ses habits avaient disparu. Lui aussi était en uniforme. La musique, toujours la musique. Tout à coup, une femme apparut à ses côtés. Elle avait un énorme chapeau à fleurs, une robe à rayures tricolores. Elle se tendit à son cou et lui dit
« Serai ta marraine, je te tricoterai des chaussettes et je t'enverrai des vers. Sois brave, ne pense qu'à une chose, défendre ta patrie jusqu'à la mort. S'il le faut, je tuerai ta marraine, je te tricoterai des chaussettes et je t'enverrai des vers. Je serai ta marraine, je t'enverrai des chaussettes et je t'enverrai des vers. Sois brave, sois brave.
Avec toi.
Je m'excuse, monsieur Bottini, vous êtes monsieur l'ingénieur Bottini.
Oui.
Eh bien, au revoir. Excusez-moi, il va falloir que je parte. Il y a le boulot qui m'attend.
Non, attends, Garonne, attends. Papa, maman, je crois que le train est sur le point de partir. Il est temps de nous séparer.
Au revoir, mon enfant. Et n'oublie pas qu'un peuple hostile a déchaîné une tempête de feu sur notre patrie. Et du courage.
Ah, c'est bien.
Prends bien soin de toi.
Garonne! Garonne, attends-moi.
Il faut que j'aille au travail.
Alors tu fais le même métier que ton père?
Oh non. Non, non, je suis encore qu'à la chauffe. Et toi? Toi, je parie que tu es déjà ingénieur.
Non, j'ai pas eu le temps.
Ah non?
Non. Tu sais, j'ai tant de choses à te demander. Il faut que tu me pardonnes, je suis pas venu te voir.
Oui, oui.
Et les autres, dis-moi, tu les revois?
Voyons.
J'en ai calé. Je serai lâcheté si je ne partais pas. Moi, je suis un soldat et je vais au combat.
Franck se trouvait dans un train. Il avait soif, chaud. Se demandait ce qu'il faisait.
Garonne ! Garonne ! Garonne !
Ça Savez-vous que je n'ai pas revu le roi Umberto depuis la guerre de 66? À l'époque, j'étais presque un gamin. J'étais parti comme volontaire, Canudalou. Umberto n'était pas encore roi. Mettons-nous là.
Reculez.
Il me semble que c'était hier. J'avais la musette sur le dos, le fusil à la main et...
Le oui, train s'arrêtait et à chaque étape, il y avait des défilés, des cérémonies qui n'en finissaient pas.
Pendant que le canon tenait au loin.
Ah, vous êtes gentil, merci monsieur.
Allez, allez, sur le podium. Pauvre roi, sa moustache est devenue toute grise. Les rois ne devraient jamais vieillir.
Voici enfin arrivé sur le champ de bataille, le champ de gloire. C'est le plus beau jour de votre vie. Enfin, vous allez devenir des hommes. Vous allez enfin savoir ce que c'est que de tuer. Vous allez enfin savoir ce que c'est que d'avoir la mort à ses trousses. Soldats, vos chefs vous ont dit qu'il fallait aller se battre. Soldats, vos chefs ont voulu la guerre. Ils veulent la guerre. Il faut que vous la fassiez à leur place, soldats. Soldats, votre pays est surpeuplé. Vous devez mourir pour l'avenir de votre race.
J'ai besoin d'un volontaire pour voir ce que fait l'ennemi. J'ai besoin d'un volontaire parce que je sais qu'il n'a aucune chance de revenir. Et puis ça n'a aucune importance. Car ces informations, je n'en ai pas besoin. Mais comme c'est la guerre, il faut bien faire quelque chose. Et puis, il faut bien créer des héros, n'est-ce pas? Allons, tiens, toi, tu seras volontaire.
Je n'ai rien dit. Je ne suis pas volontaire.
Félicitations. Comment t'appelles-tu?
Franck.
Trois soldats s'approchent de lui. On lui met un casque, un autre une carabine et le troisième un sac à dos. Trois soldats le poussèrent. Le régiment était au garde à vous sur son passage. Les portes s'ouvrirent. Il se retourna
Il était hors des enceintes du fort. La porte du fort était fermée. La musique continuait à jouer. Frank, apeuré, furieux, se mit à frapper du poing sur la porte du fort.
Laissez-moi entrer! Laissez-moi entrer! Laissez-moi entrer! Je ne suis pas volontaire! Je ne suis pas volontaire!
Mais ses cris étaient étouffés par la musique qui était de plus en plus forte. Il se retourna et était dans une immense étendue déserte. Se leva et lui dit
« Je suis votre ennemi. Pourquoi me tirez-vous bois? Ne tirez pas vos pas sur moi. Il faut tirer dessus. C'est la règle. Ce n'est pas parce que je n'ai plus mes habits que je ne suis plus votre ennemi. Allez, qu'est-ce que vous attendez? Votre devoir est de tirer sur moi. Allons, allez-y. Vous avez peur de quoi? Vous voyez bien que je suis sans défense. » C'est-à-dire que je ne pouvais pas savoir, vu que vous n'aviez pas d'habits. Il m'était très difficile de savoir qui vous étiez, et puis vous ne m'aviez rien fait. Tu as quelqu'un comme cela, de sang-froid, et puis cette guerre, ce n'est pas moi qui l'ai voulu. Si vous permettez, je vais continuer mon chemin.
Le juste soldat était furieux.
Allez, continuez votre route. Vous êtes qu'un lâche. Moi, je vous aurai tué. Vous ne savez certainement pas le plaisir que l'on a à tuer. Vous ne m'avez pas tiré dessus. De quoi ai-je l'air, moi? Vous m'avez déshonoré. Et puis mourir à la guerre, c'est un grand honneur. Allez, continuez votre chemin.
Il se rassit à terre en pleurant. Frank continua son chemin. Était rouge. Une odeur désagréable de pourriture était amenée par le vent. À certains endroits étaient mêlés à la boue de grandes plaques de sang. Tout à coup, le ciel était rouge. Une odeur désagréable de pourriture. Frank fut saisi d'horreur. Devant lui, sur une immense étendue, des milliers de cadavres. Ils étaient tellement mélangés à la boue que l'on ne pouvait plus savoir de quelle nationalité ils étaient. Le ciel était rouge. Des charognards survolaient les cadavres. Il se dégageait une odeur insupportable. Frank continua sa route tout en faisant attention où il mettait les pieds. Au bout d'un moment, il entendit des petits cris qui provenaient d'un grand trou d'obus. Il s'y approcha. Horreur ! Deux charognards étaient en train de dépecer un cadavre. Ah! vaisseau était plein de sang. Le cadavre avait un énorme trou au ventre d'où sortaient ses boyaux. Charognard était tellement absorbé par ce qu'il faisait que la présence de Franck ne les dérangeait pas. Franck se sauva en hurlant. Il se sauvait en hurlant. Il s'arrêtait pour vomir. Puis, il continua sa route en regardant le moins possible autour de lui. Prisonniers. Trois hommes entourèrent Franck. Vos armes, je vous prie. Franck donna sa carabine. Suivez-nous. Ils arrivèrent devant une maison en ruine. Les soldats étaient assis à terre et jouaient aux cartes. Après quelques minutes, un commandant sortit de la maison. Il s'approcha de Franck et lui dit « Je me présente, commandant Saint-Jean, 3e division, 20 ans de carrière. Et vous ?» Franck, bien à vous, répondit
« Franck de la Tour du Pin, militaire forcé. J'étais chez moi et j'étudiais tranquillement, car je suis étudiant. J'étais chez moi.
Oui, je sais. Et la guerre vous est tombée dessus. C'est pour tout le monde pareil, vous savez. Même si l'on sait qu'il va y avoir la guerre, elle n'est toujours surpris. La société nous avait jusqu'à présent dit de créer, faire des enfants, travailler et tout, quoi. Puis d'un seul coup, elle nous dit le contraire. Il faut tuer, détruire. Cela fait un choc, bien sûr. Mais au bout de quelque temps, l'on s'y fait, et l'on s'aperçoit que c'est plus facile de détruire. Et lorsque la paix est là, l'on regrette la guerre.
Il dit à ces hommes,
« Soldats, je suis très heureux que vous n'ayez fait un prisonnier. Il est très bien, blond, grand, mince, il est parfait. »
Franck regarda aussi le commandant. Il le vit grand, mince, proprement vêtu, 30 ans, bien, et portant lorgnon. Il se dit qu'il aurait pu tomber plus mal. Le commandant continua et dit à Franck,
« Je vais vous leur dire de m'en garder un. » Il n'y arrivait pas. À chaque fois, il me les amenait morts. Savez-vous jouer aux échecs?
Oui.
Bien. Je vous prends à mon service. Le matin, vous me préparez mon petit déjeuner. Me lever, et le soir, nous jouerons aux échecs. Vous dormirez près de moi. »
Un soldat s'approcha du commandant.
Mon commandant, l'ennemi approche.
Sont-ils nombreux?
Ils sont 500 au moins.
Nous ne sommes pas assez nombreux. Et puis je tiens à garder mes hommes en vie. Je les ai choisis. Ce sont les plus beaux spécimens de notre armée. Nous allons donc battre en retraite. Faisons nos bagages et partons.
Et vous?
Je ne peux pas vous garder. Je le regrette. Vous êtes mignon, mais j'ai tellement de choses à emporter. Et puis, il faudrait vous surveiller. Vous retarderiez notre retraite. Non, je ne peux pas. Soldats, fusillez-moi le prisonnier.
Les trois soldats emmenèrent Franck derrière la maison. On le mit contre le mur. Il y avait 5 soldats prêts à tirer. Mais une voix dit « Venez vite, l'ennemi approche !» Franck se retrouvera seul.
décida de retourner à son régiment. Il en fit le trajet qu'il venait de faire et arriva devant la porte du fort. Elle était fermée. Une fois lui dit
« Qui va là ?»«
C'est moi. » »«
Sergent, il a dit c'est lui. L'on ouvre ?»« A-t-il dit le mot de passe ?»«
Oui, sergent. Il a dit c'est moi. » »«
Alors, ouvrez !»
Franck entra. Un soldat vint vers lui et lui dit que le commandant désirait le voir. Lorsqu'il se trouva dans le bureau du commandant, il fut reçu par le commandant par ces mots.
« Je vous arrête pour avoir passé à l'ennemi et fait une tentative d'espionnage. »
« Je ne comprends pas. »
« C'est très simple. Votre mission devait se terminer soit par votre mort, soit que vous soyez passé à l'ennemi. »
Mais je suis revenu. Cela prouve que je ne suis pas passé à l'ennemi.
Si. Si vous êtes revenu, c'est pour nous espionner.
Se trouvait en prison. C'était une ancienne cave. L'hiver, elle protégeait du froid et l'été de la chaleur. Franck était puni. Il ne pouvait pas faire ce que faisaient ses camarades. Eux, ils faisaient toute la journée des exercices sous la chaleur, sans boire ni manger. Pendant ce temps-là, lui était au frais, avec une couche d'eau et un morceau de pain. Et pour les repas, il avait la même chose que les autres. Il passait une grande partie de son temps à dormir au frais, tandis que ses camarades maigrissaient au soleil, lui grossissait à l'ombre. Ainsi. Réveiller. Lorsqu'il réussit à se réveiller complètement, il fut surpris de ne pas reconnaître la pièce. Il y avait du blanc de partout, des murs blancs, des draps blancs, une femme habillée de blanc vint vers lui.
Où suis-je? Où suis-je? Où suis-je? Où suis-je? Mais vous êtes dans la clinique Sainte-Marguerite. Vous vous souvenez plus? Cela fait pourtant 3 mois que vous y êtes. Je suis malade? Oui, vous êtes malade, très malade.
Et l'infirmière partit.
Thank you.
Radio Canut vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La Nuit. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.